Vous aimez ce podcast ? Soutenez-le grâce à l'option Acast Supporter. C'est vous qui choisissez combien vous donnez et à quelle fréquence. Cliquez simplement sur le lien dans la description du podcast pour le soutenir dès à présent.
With LinkedIn Jobs, we tap into a network of more than a billion professionals to help you find quality professionals quickly and easily for any role you need. Marketing wizards? Found them.
Software engineers?
Found.
That project manager I could never seem to hire?
And found. LinkedIn Jobs quickly matches your roles with candidates with the right skills and experience. In fact, 86% of small businesses get a qualified candidate within 24 hours. Post your first job for free and get started at linkedin.com/spoken. That's linkedin.com/spoken. Terms and conditions apply.
I'll be right behind you, Josephine. I won't leave you waiting in between. And the cigarette you bummed from me is almost burning out. You suck it till your fingers burn and then you throw it on the ground.
Bienvenue sur le podcast Les enfants vont bien. Ici, vous entendrez parler de PMA à l'étranger, de GPA, de conception artisanale, d'adoption et de bien d'autres termes qui accompagnent les parcours de conception de nos familles. Vous entendrez aussi et surtout des familles homoparentales, monoparentales par choix ou de fait, adoptantes, nous raconter leur parcours extraordinaire au sens littéral du terme, vers la parentalité. Parce qu'en France, le chemin est bien avancé mais n'est pas encore abouti, je vous propose d'écouter des témoignages de nos quotidiens qui vont vous rassurer sur le fait que nos enfants vont bien.
Vous écoutez l'épisode 25 du podcast Les enfants vont bien. Il y a un pan de la parentalité LGBTQIA+, qui est d'office exclu des discussions autour de la future loi bioéthique, et pourtant, elle fait l'objet de bien des débats. Est-ce que la France, ou plutôt les Français, ne sont pas encore prêts pour l'envisager ? Est-ce que sa réputation est trop sulfureuse ou trop fantasmatique ? Est-ce que ce sont plutôt nos politiques qui sont trop conservateurs ? Ce qui est sûr, c'est qu'il ne faut pas la nier, et surtout, il ne faut pas invisibiliser les familles y ayant eu recours et les enfants issus de cette technique de procréation. Il est bien sûr question de la GPA, gestation pour autrui, qui est l'une des rares possibilités pour des couples de papas ou des couples transgenres d'avoir accès à la parentalité. Avec Maître Berdo, nous sommes revenus sur le contexte légal qui entoure la GPA, les possibilités de reconnaissance et notamment la préférence pour l'exéquature dans la procédure de transcription des actes de naissance. Nous avons aussi fait un point sur la GPA sauvage qui, elle aussi, n'est pas un mythe. Enfin, nous avons fait un tour d'horizon rapide mais toutefois nécessaire autour d'une parentalité encore différente qui, bien souvent, n'est pas notre première intention car trop difficile d'accès. Il s'agit bien sûr de l'adoption d'un enfant pupille d'État. Elle aussi semble inaccessible et pourtant, depuis quelques années, certaines familles homoparentales, après passage par la case mariage, arrivent à se voir confier des enfants. Encore une fois, je tiens à remercier chaleureusement Maître Berdo pour le temps accordé à ses enregistrements et pour ses conseils avisés et éclairés dans notre accès à la parentalité. Je vous souhaite une bonne écoute.
Bonjour Florent.
Bonjour Constance.
Je vous remercie de vous être rendu disponible à nouveau pour traiter une nouvelle question aujourd'hui juridique et plus particulièrement une question qui va traiter, on va traiter de la GPA et de tout ce qui doit entourer la GPA. Et donc je rappelle bien qu'en France, pour le moment, elle n'est pas autorisée. En tout cas, de tout ce qui doit entourer la GPA en termes de juridique. Est-ce que vous pouvez nous faire un petit rappel déjà pour commencer du cadre légal en France ?
Alors, le cadre légal en France, il est assez simple, effectivement. Hein, le Code civil proscrit tout à fait toute convention portant sur la gestation pour autrui. Donc, il n'y a plus d'ambiguïté. Hein, finalement, ça n'est officiellement interdit par la Cour de cassation que depuis les années 90 et beaucoup plus récemment par le Code civil. Donc, nullité totale de toutes ces conventions. Et donc interdiction en théorie d'en tirer toute conséquence sur la filiation. Parallèlement, la GPA donne lieu à une incrimination pénale. Alors, il n'y a pas d'infraction dans le code pénal qui dise conclure un contrat de GPA est une infraction qui est punie de temps. En revanche, la GPA est prise en compte au travers d'autres infractions, essentiellement l'infraction d'entremise, qui vise cette fois-ci toutes les éventuelles agences ou les gens qui pourraient justement permettre la création d'un tel contrat. Mmh. Et une autre infraction qui est la provocation à l'abandon, entendue dans un sens assez large. C'est pas juste abandonner l'enfant, mais le fait de ne pas de provoquer quelqu'un, essentiellement de le payer donc, pour l'amener à ne pas s'occuper de son enfant. Donc c'est exactement le cas, puisque en France, de toute façon, la mère porteuse serait la mère légale puisqu'elle accouche. Donc la mère porteuse qui accepterait au terme d'un contrat de ne pas s'occuper de son enfant pour le remettre aux parents, dans le cadre de ce qu'on appelle, c'est pas très joli, mais au moins c'est bien expressif, un contrat de GPA sauvage, donc faites comme ça, parce que ça existe bien sûr, naturellement. D'accord. Eh bien, cet engagement de ne pas éduquer son enfant concrétise l'infraction provocation à l'abandon.
D'accord. Mais en tout cas, on est bien d'accord que malgré tout, il y a des enfants issus de GPA qui vivent en France. Alors, GPA en France, donc dite sauvage, ou GPA à l'étranger, on a des enfants qui sont donc maintenant français, qui sont issus de GPA.
Oui, alors vraiment, je reprends la distinction. Donc, l'interdiction de la GPA en France, c'est donc l'interdiction de conclure un contrat de GPA et de mener une GPA en France. Alors, c'est interdit pénalement, c'est interdit civilement. Ça n'empêche pas qu'il y ait des contrats qui se concluent en France. Quand on dit qu'ils sont nuls, ça veut dire que si on allait devant le juge pour dire « Ah bah tiens, j'ai payé tant, elle avait dit qu'elle ferait ça, mais elle l'a pas fait », le juge ne recevrait pas. Et il y aurait des poursuites pénales. Mais ça n'empêche pas, ça c'est clair, il y a des contrats de GPA en France qui sont faits et donc qui donnent lieu à la naissance en France d'enfants français qui ont un père, celui qui va reconnaître l'enfant, et qui ont du coup une mère qui est la portée, qui va souvent d'ailleurs accoucher, mettre son nom, et puis après laisser l'enfant au père. Donc ça, c'est une première configuration dans laquelle l'enfant a donc légalement un père et une mère qui ne l'éduque pas, et donc ça pose des difficultés sur d'abord l'exécution de ce contrat, qui n'est pas valide mais qui existe, et puis la place de cette femme porteuse qui pourrait être amenée à revendiquer finalement une place de mère puisqu'elle est légalement la mère. Donc, ça, c'est une première situation. Parallèlement, il y a aussi toutes les GPA plus connues et plus encadrées, faites légalement à l'étranger, qui restent tout à fait interdites en France. Ça ne change rien, c'est le même cadre civil, le même cadre pénal. Néanmoins, légalement conclues à l'étranger, ces GPA existent, sont menées à terme, désormais de façon assez officielle et non clandestine, et produisent des effets juridiques en France, dans la mesure où l'enfant est né, et l'enfant à une filiation dont on va peut-être un peu parler, mais qui a été petit à petit, néanmoins désormais tout à fait reconnue en France, et donc elle produit des effets en France. Donc vraiment, il faut qu'on distingue l'interdiction absolue de la GPA en France, et alors qui est, encore une fois, malgré tout contournée par des contrats de GPA en France, qui n'ont pas de valeur mais qui existent, et la possibilité de faire des contrats légalement encadrés à l'étranger, et d'en faire reconnaître les conséquences, c'est-à-dire l'existence de l'enfant et de la filiation en France.
D'accord. Et donc, on va commencer par la GPA en France et donc la GPA dite sauvage. Dans cette GPA-là, la plus grosse difficulté finalement, bon, hormis qu'il y a un contrat mais qui n'est pas forcément respecté et qu'on ne peut pas faire juger si besoin, il y a aussi le problème du parent social, enfin du deuxième parent.
Tout à fait. La GPA sauvage pose vraiment des difficultés tout à fait différentes de la GPA faite à l'étranger parce qu'elle n'est précisément pas encadrée et donc elle est vécue du début à la fin dans un climat qui peut-être se passe très bien, mais un climat de tension et d'épée de Damoclès absolument permanent pour tout le monde. Alors, d'abord, le risque que prend la mère porteuse. Bien, imaginons tout simplement que bon, c'est un risque qu'on évoque peu parce que ce parcours de combattant de la GPA qui est suivi par les candidats à la paternité fait qu'en général, c'est rarement les pères qui se désengagent. Mais enfin bon, théoriquement, la mère porteuse, toujours est-il que quand l'enfant est né, si le père le couple de pères ne se manifeste pas, elle se retrouve avec l'enfant sur le bras, alors elle pourrait faire une action en recherche de paternité, mais elle pourrait pas demander à ce que l'enfant soit confié au père qui n'en voudrait pas, parce qu'elle n'en a jamais voulu, vous voyez. Donc ça, c'est quand même une première situation qui ne protège pas la mère porteuse. Néanmoins, c'est pas ça le risque principal, puisque c'est quand même assez peu fréquent que les pères, après tout ce qu'ils ont fait, se désengagent. En revanche, effectivement, le risque, il est pour les deux pères, donc pour le père biologique, pour les deux pères finalement, il est que la mère ne remette pas l'enfant ou veuille s'investir dans la vie de l'enfant alors que ce n'était pas prévu. Bon, et ça, si elle se décide de le faire dès la naissance, le juge aux affaires familiales qui viendrait statuer, eh bien statuerait comme dans, enfin, j'allais dire comme dans n'importe quel couple de parents séparés, non, parce qu'il y a quand même peut-être, on montrerait, moi je serais, ce serait un dossier que je ferais, je n'hésiterais pas à montrer le contrat de mère porteuse pour dire, attendez, c'était pas l'esprit, et donc elle n'a pas de volonté réelle, elle n'avait pas de volonté maternelle sur cet enfant. Bon, après ça peut naître, donc le juge peut quand même lui dire, bah ok, vous gardez l'enfant avec un droit de visite pour le père, tout ça. Après, il y a un autre danger pour les deux, c'est le danger de chantage, et ça j'ai eu des dossiers comme ça, où en cours de grossesse, la mère porteuse peut monter les enchères, hein, ça va être terrible, c'est une réalité, ou même après la naissance, continue à monnayer son absence de la vie des enfants, en disant que si on continue pas à payer, j'ai un dossier comme ça, où deux fois par an, la mère porteuse se manifeste. Finalement, elle ne met jamais à exécution, ça fait 3 ou 4 ans donc les enfants ont 5 et 7 ans, et depuis 3 ou 4 ans, mes clients vivent dans l'angoisse deux fois par an de recevoir une lettre de la mère porteuse qui dit « si vous ne me donnez pas plus d'argent, je réclame mes droits sur les enfants ». Bon, ils tiennent, ils ne donnent pas d'argent, et finalement, elle ne fait rien pour l'instant, mais il y a cette petite pression, et là, je suis sûr que si elle le faisait, bon, un juge constaterait que les enfants ne la connaissent pas, donc je ne suis pas sûr que ça irait très loin, et ça aurait plutôt des conséquences pénales qu'autre chose. Mais c'est cette pression.
Oui.
Et puis, évidemment, dans le cadre de la GPA sauvage, il y a donc la question du deuxième père, puisque dans ces GPA, nécessairement, l'enfant va naître avec un acte de naissance avec la mère inscrite dessus, donc c'est une mère légale, et le père biologique qui va reconnaître l'enfant. Alors, j'ai dit nécessairement. Non, on pourrait imaginer qu'il n'y ait pas la mère légale sur l'acte de naissance si elle accouche sous X. Néanmoins, outre le fait que c'est une infraction pénale supplémentaire de jouer, si je puis dire, avec l'état civil de l'enfant, c'est-à-dire de volontairement ne accoucher sous X pour en fait faire reconnaître l'enfant par le père. Tout ça est possible sur le papier, on a le droit d'accoucher sous X, on a quand même le droit de reconnaître son enfant même si la mère accouche sous X, mais si tout ça est une opération dans cet esprit-là, on est clairement sous le coup de la loi pénale. Outre le fait que pour y arriver, c'est-à-dire pour réussir à accoucher sous X, sans pour autant empêcher de facto le père d'avoir accès à l'enfant, parce qu'en général, l'accouchement sous X, c'est un accouchement clandestin pour tout le monde. C'est très rare qu'une femme accouche sous X tout en prévenant le père qu'elle va accoucher sous X à tel endroit, à telle date, pour qu'il puisse reconnaître l'enfant. Pour qu'on réussisse une telle opération, il faut en gros que tout le monde à maternité soit au courant. Parce que l'accouchement sous X enclenche un mécanisme de prise en charge de l'enfant par la société qui est immédiat. Et donc, en fait, le père n'a plus le temps d'intervenir.
D'accord. Donc il faudrait qu'il soit présent sur place au moment de l'accouchement.
Il faudrait qu'il soit présent, il faudrait qu'il ait prévenu tout le monde et qu'il suive l'enfant à la trace en réalité, tant physique que administrative, et que surtout personne ne vienne te dire qu'est-ce que c'est que cet accouchement sous X avec le père qui est présent, et donc ne vienne prévenir le. Franchement, on a un exemple d'un cas où tout s'est extrêmement bien goupillé, où tout le monde a joué le jeu d'être plus ou moins au courant, mais pas poser de questions, et hop, ça c'est fait, mais c'est très dangereux. Et outre le fait qu'on ne peut pas le conseiller ni l'accompagner en tant qu'avocat, puisque donc c'est des choses que les gens peuvent faire que tout seul, on ne peut pas être en préparation d'une situation qui représente une infraction pénale. Bon, donc, en dehors de ce cadre-là, dans la GPA sauvage, on a la mère génétique, du coup, qui en plus est la mère biologique, c'est elle qui a porté l'enfant et qui a donné ses ovocytes, évidemment, et qui est donc la mère légale. Le père biologique qui reconnaît l'enfant, ou d'ailleurs un autre père qui reconnaît l'enfant, puisqu'on ne va pas vérifier qui est-ce qui est père biologique, mais enfin c'est pas grave, un des deux pères qui reconnaît l'enfant et l'autre qui ne peut pas le faire, et bien l'autre dans ces conditions se retrouve dans la même situation juridique que tous les coparents, c'est-à-dire qu'il n'a pas de lien de filiation et qu'il lui reste la possibilité de demander une délégation d'autorité parentale ou de faire une adoption simple. Alors, pour la délégation d'autorité parentale, vous vous souvenez, on a vu qu'il faut que les deux parents soient d'accord. Bon, on peut imaginer que ce soit là, il n'y a pas de problème, que ce soit possible, les circonstances sont remplies. Sauf que dans la délégation d'autorité parentale, il y a le procureur qui intervient. Et autant un homme qui délègue son autorité parentale à un couple de femmes, on en a vu beaucoup, autant dans l'autre sens, c'est sûr que ça va faire penser à une GPA nécessairement. Donc, ça risque d'entraîner des poursuites. Mais c'est techniquement possible sur le papier. Ensuite, l'adoption simple, vous vous souvenez qu'on avait dit que ce n'était pas possible en coparentalité parce que ça revenait à faire perdre un parent, à faire perdre l'autorité parentale à un parent. Il se trouve que là, la mère biologique et porteuse pourrait être tout à fait d'accord pour perdre son autorité parentale. Donc, ça pourrait correspondre qu'elle consente à l'adoption simple de son enfant, forcément à l'adoption simple, puisqu'elle est mère légale, donc elle ne peut pas consentir à l'adoption plénière. Donc ce serait possible. Néanmoins, là aussi, dans les procédures d'adoption, il y a le procureur et il y a fort à parier que le procureur, voyant nécessairement découvrant une situation de GPA sauvage, vienne faire des poursuites. Donc les gens en général se contentent, et moi les clients que j'ai eus c'est ça, ils se contentent de vivre avec leurs enfants, d'attendre quelques années, et quand certains nombre d'années sont passées, donc déjà la prescription pénale qui est de 6 ans, quand déjà ça s'est passé et que le temps a vécu, c'est-à-dire que les enfants ont été éduqués par les deux pères sans aucun contact avec la mère, on peut plus facilement aller voir le JAF qui va constater que l'intérêt de l'enfant est de vivre avec ceux qui l'ont éduqué depuis toujours. Bon, mais la place du père social, même s'il a les mêmes droits que n'importe quel autre parent social, c'est quand même plus compliqué parce qu'on va vraiment, beaucoup de gens n'osent pas en fait aller revendiquer, ils se disent tout va bien, on va pas aller frapper à la porte des tribunaux.
Oui, c'est sûr. Et puis, tendre le bâton pour se faire battre.
Donc, c'est clair que la GPA sauvage, c'est une situation bancale, stressante et fragile, et qui, en plus, pour le père social, l'est encore plus. Bon, néanmoins, ça existe clairement, et à force de situations difficiles, le Parlement finira par légiférer, parce que le coût de la GPA légale à l'étranger est tellement prohibitif pour de nombreux couples, que la question ne se pose pas. Et qu'il n'y a pas de plaisir particulier à être dans une situation bancale et stressante pendant de nombreuses années, hein, parce qu'une fois qu'il y a l'enfant, bah, voilà, faut imaginer qu'on est à la merci d'une réclame, d'une demande, d'un procureur qui se demande ce qui se passe, on doit justifier son explication, sa situation plusieurs fois, qu'est-ce que c'est que cette mère sur l'acte de naissance qu'on ne voit jamais à l'école, bon, c'est compliqué. Mais bon, quand le désir d'enfant est là et qu'on n'a pas 200 000 euros sur son compte, c'est compliqué de... Enfin, le choix était assez rapidement fait.
Mais clairement. C'est vrai que pour les couples de pères, c'est vraiment beaucoup plus compliqué et beaucoup plus coûteux de pouvoir réaliser, de devenir parent de façon légale, finalement.
Ah bah, beaucoup plus coûteux, c'est sûr, et beaucoup plus compliqué aussi, parce que, bon... Tout parcours de, enfin, on peut pas vraiment comparer, mais tout parcours de parentalité peut être facile et peut être compliqué. Mais pour la GPA, même quand c'est facile, c'est-à-dire quand ça se passe bien dès les premières fois, bon bah ça reste déjà. En fait, c'est souvent un parcours compliqué avant. C'est-à-dire que ça paraît très difficile à monter. D'autant plus que forcément, et nous en tant qu'avocats les premiers. On peut pas aider des clients à monter leur dossier et à arriver jusqu'à la fécondation et la naissance de l'enfant, puisqu'on peut pas les aider à commettre des infractions pénales. On peut intervenir ici que pour conseiller sur l'enfant est là, vous avez décidé de faire ça, ok, comment on fait pour son retour, ça y a pas de problème. Mais donc c'est souvent compliqué avant, et après, mais même quand ça se passe bien, faut quand même imaginer ce que c'est qu'une grossesse à distance avec la communication avec une femme avec qui, bon, certes, une intimité naît, mais ça reste une inconnue qu'on a peut-être vue une fois avant la conception.
Oui.
Et encore pas toujours, pour ceux qui n'y vont pas. Et donc, faut vivre une grossesse à distance, c'est quand même particulier. Donc, c'est sûr que c'est un parcours du combattant. Et puis après, la GPA, comme d'autres modes de PMA au sens large, bah, peut ne pas marcher du premier coup, et dans ce cas-là, vous rajoutez à tout ça les surcoûts des nouvelles inséminations, et à chaque fois, ce sont des surcoûts et des surstress et des voyages autres que, même si c'est quand même fatigant et quand même stressant, que d'aller en Belgique.
Oui, bah complètement. Alors maintenant, du coup, parlons de la GPA à l'étranger. Est-ce que vous savez où vous avez le droit d'ailleurs de citer les pays dans lesquels actuellement on peut pratiquer une GPA.
Alors oui, j'ai tout à fait le droit de le dire. Alors tous les pays où ça se pratique c'est pas les mêmes conditions. Bon, les pays vraiment où ça se pratique librement et dans tous les sens du terme, c'est-à-dire que c'est pas de conditions restrictives. Ce sont les États-Unis et le Canada, clairement. Mm-hmm. En revanche, voilà, il y a quatre pays où ça se fait beaucoup. C'est États-Unis, Canada, pas de problème, et Russie, Ukraine. Sachant qu'en Russie et en Ukraine, c'est alors plus ou moins officiellement. C'est-à-dire officiellement, c'est réservé aux couples hétérosexuels. C'est-à-dire qu'il faut se faire passer pour un couple hétérosexuel ou en tout cas de pas montrer qu'on est avec un autre père. Bon, ça c'est vraiment ce qui est écrit dans la loi et une de mes consoeurs est beaucoup plus spécialisée notamment dans la filière ukrainienne et continue à me le confirmer. Mm-hmm. Néanmoins, j'ai déjà eu des dossiers moi, alors des dossiers pas de GPA mais de contentieux post-GPA en France, donc des dossiers de couple classique, de divorce, séparation, dans lequel il y avait une GPA faite à l'Ukraine et dans lequel on voyait bien que les deux pères avaient signé les contrats, donc je ne sais pas dans quelle mesure c'est hyper strict cette condition.
Oui.
Ensuite, voilà, vous avez d'autres pays dans lesquels c'est possible. C'est tellement restrictif que franchement, on n'a pas de dossier. Mm-hmm. En Grèce, c'est possible, mais il faut être hétéro uniquement. C'était possible pour les couples homo, ça ne l'est plus. Mm-hmm. En Angleterre, c'est possible, mais il faut être résident avec un projet de vie qui est démontré. Donc, ça ne peut pas être juste « je fais l'aller-retour ». Oui. Il me semble que c'est en train de s'ouvrir en Israël. Et puis c'est possible au Mexique pour les Mexicains. Bon, voilà, il y a, je crois, un pays d'Afrique qui m'échappe là. C'est possible. En Inde, ça n'est plus possible pour les étrangers. Bon, il y a plusieurs configurations, mais bon, évidemment, le pays, les États-Unis et le Canada restent la destination numéro un.
Oui, évidemment. Bah, c'est aussi celle qui est la plus connue, finalement.
C'est la plus connue, c'est la plus encadrée, c'est là où il y a quand même... bon, en Ukraine, je crois que les choses se passent assez bien. C'est assez amusant parce que par avocat, on a comme, enfin, les clients viennent d'un endroit, le nom circule, mais j'ai plus de dossiers d'Ukraine depuis quelques temps. Mais j'ai entendu dire quand même que ça se passait assez bien, en fait. Hein. C'est pas du tout... C'est assez loin de l'image un peu glauque qu'on en avait à un moment. En revanche, États-Unis, Canada, c'est sûr que c'est très encadré, c'est très libéré. Donc, c'est... y a pas ce côté clandestin qu'on peut avoir peur d'avoir. C'est clair, c'est transparent. Voilà. Bon, ça ne veut pas dire que c'est facile et que tout est rose, mais c'est effectivement les pays dans lesquels c'est le plus... C'est le moins difficile de se diriger. Après, il y a une différence majeure entre les deux, États-Unis, Canada, qui peut évoluer aussi à très court terme. C'est mm-hmm. qu'au Canada, les mères porteuses ne sont pas rémunérées. Alors, en réalité, elles sont défrayées, mais il y a un plafond qui, je crois, est à 22 000 dollars canadiens. Donc, ça fait genre à peu près 18 000 euros sur toute la grossesse. Oui. Alors qu'au États-Unis, eh bien, c'est un prix... qui est défini de gré à gré, qui peut y avoir, ça peut être beaucoup plus cher. Du coup, pour cette raison-là, et parce que les niveaux de vie ne sont pas les mêmes, c'est relativement moins cher au Canada. En revanche, pour ces mêmes raisons-là, il y a beaucoup, beaucoup moins de candidates porteuses au Canada. Très peu d'agences. Il y a une agence plus ou moins monopolistique et des petites agences. Et il y a beaucoup de couples qui le demandent, puisque c'est moins cher, notamment. Oui. Enfin, c'est moins cher et c'est pour certains très important, un peu plus éthique, du fait qu'il n'y a pas de rémunération illimitée. Mm-hmm. Et du coup, les attentes, dernières nouvelles, deviennent difficiles. Et voilà, il y a certaines frustrations sur le marché canadien, si je puis dire, qui n'a pas l'air d'exister en Amérique. Après, le professionnalisme et le niveau, évidemment, sont les mêmes,
ouais. Et alors, je pense qu'une des parties qui est la plus difficile, bon, hormis bon, le fait... pour avoir déjà enregistré un épisode sur la GPA aux États-Unis, que c'est quand même relativement bien encadré quand on passe par des agences, et que du coup, les couples sont quand même très bien accompagnés et sécurisés. Par contre, la partie difficile, c'est le retour en France avec un bébé qui a un acte de naissance étranger, enfin donc soit américain, soit canadien, soit ukrainien. Comment ça se passe ? Quelles sont les démarches à faire ?
Les choses ont beaucoup évolué et favorablement évolué en peu de temps. Aujourd'hui, on peut raisonnablement, enfin, avec quelques pincettes, mais on peut raisonnablement dire qu'il n'y a plus vraiment de difficultés. Alors, pas de difficultés pour rentrer, ça c'est sûr. Parce que vous pouvez voyager avec votre petit Américain sous le bras qui a son passeport américain qui rentre en France sans difficulté. Donc, pas de difficultés pour rentrer, plus de difficultés pour avoir les papiers. La nationalité française est reconnue automatiquement puisqu'on est enfant de Français. Les papiers d'identité, inscription à l'école, sécu, tout ça, ça n'est pas une réalité. Ça n'est pas une difficulté réelle en pratique. Ça, il n'y a pas de problème.
D'accord.
Après, vous pouvez tomber sur tel guichet de la sécu de votre coin qui est un peu plus regardant que d'autres et qui va vous poser plus de questions. Il y en a plein qui tombent sur des gens qui leur posent des difficultés. Mais le droit est tout à fait clair.
D'accord.
Sur les papiers, l'identité, la nationalité, pas de difficulté. La question qui se pose donc, c'est la reconnaissance de la filiation établie à l'étranger ou à établir en France si elle n'a pas été à l'étranger avec le parent d'intention. Là-dessus, alors je ne sais pas dans quelle mesure on peut aller précisément sur la jurisprudence, mais là-dessus, les choses ont évolué en plusieurs étapes, en commençant par les GPA hétéro ou entre guillemets hétéro, c'est-à-dire sur lesquels il y avait un père et une mère venant de Russie, disant on transcrit, puisque l'acte de naissance russe qui dit papa-maman, il n'y a pas de raison de penser qu'il est faux, donc on écrit, mais du coup on transcrit avec la mère, ce qui n'est pas très intéressant, mais enfin, en tout cas, on a commencé par accepter de transcrire la filiation avec le père biologique, sans transcrire la filiation avec le père social, et puis une première étape a consisté à dire, ok, je rejette la transcription totale, donc l'acte étranger dans lequel il y avait deux pères, si vous venez en France, il sera rejeté, mais je vous autorise à le transcrire à moitié seulement avec le père biologique et à rétablir la deuxième filiation par l'adoption. Ça, c'est une première, une première démarche. C'est déjà une troisième ou quatrième étape dans la démarche générale de reconnaissance de la GPA. Mais en ce qui concerne la parentalité d'attention, en 2017, on a dit « Ok, pas de problème, transcription du premier lien, du lien biologique et reconstruction de la filiation par l'adoption. » Bon. Ça a un intérêt pratique, c'est-à-dire qu'on arrive à avoir la double filiation. C'est une hérésie juridique, puisque du coup, la transcription, ce n'est que le recopiage d'une filiation déjà établie à un endroit dans notre pays, alors que l'adoption, c'est la création de la filiation. Donc, c'est tout à fait incompatible, les deux notions, mais enfin bon, par ce bricolage, on arrivait à avoir deux pairs.
Oui.
Et puis, on a demandé un avis à la Cour de cassation, à la Cour européenne des droits de l'homme, pour dire, est-ce que, d'après vous, ce mécanisme qu'on a accepté en France, ça respecte les droits de l'enfant quand même, ou est-ce qu'il faut aller jusqu'à la double transcription ? Et la Cour de cassation a dit non, ça respecte. Donc la Cour européenne des droits de l'homme a dit non, ça suffit, ça respecte les droits de l'enfant du moment qu'il y a une façon ou une autre d'établir la double filiation, mais quand même avec une certaine rapidité et effectivité.
D'accord.
Et à la suite de ça, on s'est dit, ça y est, l'évolution, elle est finie. Si même la Cour européenne des droits de l'homme nous dit une filiation transcrite plus une filiation reconnue autrement, ça suffit, on n'ira pas plus loin. Et d'ailleurs, les premiers arrêts, la Cour de cassation a dit, c'était dans les affaires Menson, je prends acte de ce que dit la Cour européenne des droits de l'homme, mais dans l'affaire Menson, c'est tellement... L'affaire Menson, donc, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est l'affaire qui a donné lieu... c'est une GPA d'il y a maintenant une vingtaine d'années, en Californie pour un couple hétéro, mais c'est toute la jurisprudence de la GPA vient de cette affaire, de ce couple, de cette famille qui s'est battue depuis 20 ans pour
faire reconnaître.
Et donc, dans ce dossier-là, la Cour de cassation a dit, la Cour européenne des droits de l'homme nous dit qu'on a transcrit le lien avec le père, pas de problème, qu'on peut établir le lien avec la mère par l'adoption, on n'est pas obligé de faire la transcription, mais comme la Cour européenne des droits de l'homme dit, l'important c'est que ce soit effectif et rapide, et que ça fait déjà 20 ans qu'ils se battent, on ne va pas les obliger à passer par l'adoption. Donc là, la Cour de cassation a dit transcription totale, mais en le limitant à cette circonstance. Donc on s'est dit quand même, ça évolue, mais en tout état de cause, ça évolue parce qu'on rentre dans l'exception de la Cour européenne des droits de l'homme, donc ça n'ira pas plus loin. Et finalement, en décembre l'année dernière,
récemment,
la Cour de cassation est allée... Enfin, il y a eu plusieurs affaires qui sont passées devant la Cour de cassation et d'autres simultanément devant la Cour européenne des droits de l'homme. Donc la Cour de cassation et la Cour européenne des droits de l'homme se sont à nouveau prononcées sur cette même question de la double transcription. Eh bien, la Cour européenne des droits de l'homme a maintenu sa position disant une filiation transcrite, c'est déjà bien du moment qu'on peut reconnaître l'autre. Il n'y a pas un droit forcément à transcrire les deux. Eh bien, la Cour de cassation, elle, a décidé d'aller plus loin. Et donc, depuis la fin de l'année, de l'année dernière, la Cour de cassation dit que la transcription intégrale de l'acte de naissance de l'enfant avec les deux pères doit être autorisée et être la norme sans qu'on les oblige à passer par l'adoption.
D'accord.
Alors,
oui, donc maintenant...
ça, c'est une bonne nouvelle sur le plan des principes et de la reconnaissance de la double filiation. Donc, ça veut dire qu'aujourd'hui, on peut dire à nos clients, si vous êtes deux pères sur l'acte de naissance étranger, il n'y a pas de difficulté, vous ferez transcrire en France votre acte de naissance. Mais, il y a toujours un mais. Pour l'instant, le parquet, qui est le parquet de Nantes, puisque c'est toujours le parquet de Nantes qui est compétent, puisque c'est l'état civil de l'étranger, eh bien le parquet de Nantes dit non, moi je m'en fous, j'ai pas envie. Donc je vous propose de quand même passer par la transcription partielle, puis l'adoption, ou vous n'avez qu'à m'assigner devant le tribunal de grande instance de Nantes pour voir ce qu'il va dire. Alors, très certainement, le tribunal de grande instance de Nantes va dire au parquet de se coucher devant ce qu'a dit la Cour de cassation, parce que le tribunal de grande instance de Nantes, depuis des années, milite pour la double transcription. Sauf que le parquet faisait toujours appel, et la cour d'appel de Rennes, elle, appliquait la jurisprudence de la Cour de cassation qui interdisait la double transcription. Néanmoins, la Cour d'appel de Rennes a évolué en même temps que la Cour de cassation. Le tribunal de grande instance de Nantes, lui, était déjà favorable. Il n'y a donc que ce parquet qui bloque. Donc, soit aujourd'hui, on continue à faire la transcription unilatérale plus une adoption, soit on force la porte du parquet en assignant le parquet devant le tribunal de grande instance et on devrait obtenir la transcription. Donc, le droit évolue, a évolué vraiment vite et bien, le droit jurisprudentiel, mais on est encore bloqué face à ce parquet. On est bloqué parfois face à certains juges qui, pour prononcer l'adoption, vont dire « Ok, je constate que les conditions légales sont remplies, mais moi, j'ai besoin de savoir de quelle manière la mère porteuse a bien renoncé dans son contrat, est-ce qu'elle avait bien compris ?» Bon, ils vont aller farfouiller pour pouvoir dire qu'ils ne sont pas sûrs que c'est possible, donc ça reste quand même soumis à l'aléa, l'adoption, de l'appréciation par chaque juge.
Oui.
C'est ce qui nous avait fait du coup passer sur une autre voie plus technique, qui était de dire à nos clients « Bon, votre acte de naissance étranger, avec les deux pères, débrouillez-vous pour qu'ils soient issus d'une cour de justice. » Parce qu'il y a des... selon certains États en Amérique ou selon certaines provinces au Canada, on a l'acte de naissance à l'issue d'un process administratif ou d'un process judiciaire.
D'accord.
Administratif, c'est vraiment des dossiers, clac-clac, une déclaration. Judiciaire, c'est une décision de justice. Et on disait, si on arrive à avoir un acte de naissance avec les deux pères issu d'une décision de justice, quelle que soit la façon dont vous l'avez, une adoption sur place ou une déclaration d'un juge disant que vous êtes bien les deux pères sans passer par l'adoption, alors on peut faire reconnaître ce jugement. Il y avait une distinction finalement entre faire reconnaître directement un acte de naissance, ce qui était compliqué jusqu'à l'année, enfin impossible jusqu'à l'année dernière, possible désormais mais compliqué en pratique. Donc ça c'était une voie, et l'autre voie c'était de faire reconnaître directement une décision de justice étrangère. Et ça ne pose pas de difficulté.
Donc, oui, parce que ça doit s'appliquer.
Voilà, c'est de l'exéquature, comme dans n'importe quelle matière. Un juge a dit quelque chose dans un pays. Nous, on va juste vérifier si la procédure de ce pays-là est respectueuse de nos principes à nous. Et si c'est respectueux et que tout le monde a bien suivi la procédure là-bas, ben, y a pas de raison de ne pas reconnaître. Donc, autant vous dire que la procédure américaine est respectueuse. Et donc, si le juge a constaté que toutes les conditions étaient remplies, on reconnaît le jugement. Et donc, dans ces cas-là, on a bien notre acte de naissance avec les deux pères, transcrit directement en France. Et ça marche depuis quelques années. Donc, ça reste la voie la plus sûre aujourd'hui. Pour éviter d'avoir éviter de prendre le risque de tomber sur un juge récalcitrant si on fait l'adoption ou sur le parquet de Nantes qui manifestement continue à mettre des bâtons dans les roues.
Et donc du coup ça impose au couple de parents de rester un peu plus longtemps sur place parce que les décisions judiciaires elles prennent un peu plus de temps à être prononcées que des décisions administratives.
Parce que ce sont des systèmes un tout petit peu plus performants que les nôtres et ça va quand même assez vite. Ça reste dans le délai des 2 à 4 semaines suivant la naissance. Et il est même possible... Alors, tout ça, à chaque fois, c'est sous réserve de vérifier avec son avocat local, puisque tout dépend des lois de chaque État. Hein. Mais il est même possible, dans certains États, que ça prenne plus de temps, mais qu'on peut le faire depuis la France. On n'a plus besoin d'être sur
place. D'accord. Ah oui, d'accord, ok.
Voilà. Okay. Bon, il y a des étapes, par contre, dans lesquelles, si on n'a pas tel document tant de temps avant, après la naissance, donc il faut l'avoir fait avant, on ne peut pas repartir avec l'enfant. L'enfant reste sous la garde de la mère porteuse, donc ça, c'est compliqué. Donc, okay. Donc non, ce n'est pas forcément plus difficile de faire les démarches là-bas.
D'accord. J'ai une dernière question concernant la GPA. Qu'est-ce qu'on peut attendre de plus de la part de la France, si ce n'est que la Cour de cassation fasse se coucher le parquet de Nantes?
Que la loi bouge, parce que c'est bien gentil, mais là pour là, alors qu'est-ce qu'on peut attendre de plus pour la GPA à l'étranger? Effectivement, normalement, je pense que c'est bon, mais il suffirait que la loi le dise, parce qu'on a un texte qui permet, l'article 47 du Code civil dit déjà que les actes de naissance, enfin les actes d'état civil régulièrement réalisés à l'étranger font foi dès lors que ce qui est marqué dedans, c'est la réalité. Et en fait, on a glosé sur le terme réalité. La Cour de cassation a d'abord dit réalité biologique, maintenant elle dit bah non, ça peut être réalité juridique. Il suffit que le texte soit modifié pour dire que peu importe le mode de conception ou peu importe la filiation monoparentale, homo, hétéroparental, que les actes sont transcrits automatiquement. Donc déjà, la loi pourrait le dire pour qu'il n'y ait pas de difficulté. Et d'ailleurs, Emmanuel Macron, quand il était candidat, avait dit, alors avec une certaine ambiguïté, puisqu'il avait dit qu'on ferait reconnaître la double filiation, et j'ai lu qu'il considère que désormais, que, puisque c'est possible, la promesse elle est tenue, qu'il n'avait pas forcément dit qu'il le ferait dans la loi. Bon, toujours est-il que la loi pourrait trancher sur cette question et décider que les actes sont transcrits, ce qui éviterait tout aléa. Et puis après, il y a un deuxième point qui sera l'ouverture de la GPA en France. Ça ne donnera pas c'est comme pour la PMA à l'étranger. C'est ce que vous dira Émilie. L'ouverture de la PMA pour les femmes en France ne va pas soudainement mettre fin à la PMA à l'étranger et faire exploser les demandes en France, parce qu'une fois que c'est autorisé, c'est bien gentil, mais enfin, encore faut-il qu'il y ait du matériau, que dans la culture des gens en France, le don de sperme, le don d'ovocytes soit quelque chose qui soit dans la culture. Il est clair que la GPA en France, même si les gens ne sont pas forcément contre la GPA à l'étranger et contre le fait que les couples, les enfants et tout ça, quand vous interrogez les femmes autour de vous, vos amis de différents âges, rares sont celles qui disent spontanément « ouais, c'est super, c'est un don de soi », comme elles le font en Amérique. Enfin, pas toutes, mais comme c'est quand même beaucoup plus répandu. Donc il faudra que la loi, peut-être une prochaine loi bioéthique, mette ce débat sur la table pour que ce soit autorisé. En fait, ce sera autorisé, mais ce sera pas effectif tout de suite, parce qu'il n'y aura pas beaucoup d'agences, il n'y aura pas beaucoup de gens, pas beaucoup de femmes qui seront partantes, mais ce sera ça la prochaine évolution. Mais là, pour l'instant, la première mesure urgente, c'est de trouver une façon de rédiger la loi, de préciser dans la loi qu'il n'y a plus d'aléas sur la transcription, ni sur le séjour, bien sûr, des enfants étrangers nés en France, que ça pose pas de problème, ça évitera toute inquiétude là-dessus.
Exactement. C'est vrai que la GPA, pour le coup, de ce que j'avais pu en comprendre, c'est vraiment aussi lié, c'est culturel. C'est notre pays, il n'est pas du tout adapté actuellement à ce projet-là. Et en plus de ça, on n'a pas la même culture du corps que nos voisins américains, qui ne sont pas vraiment des voisins, mais bon, bref, qui, eux, ont une culture qui leur fait dire qu'ils font ce qu'ils veulent de leur corps dès lors que ça ne les regarde qu'eux. Alors qu'en France, tout le monde se permet de juger le corps des autres, en fait.
Mais souvent, les mères porteuses américaines ou canadiennes sont effarées quand on leur explique que c'est interdit et quand on leur explique les oppositions. C'est-à-dire que c'est quelque chose qui n'est pas compréhensible.
Oui, au même titre que la PMA pour tous à l'étranger, où les gens ne comprennent même pas les débats qu'il peut y avoir en France.
Oui, tout à fait. Donc ça mettra plus de temps à venir, mais bon, ça viendra.
Oui, je pense aussi. De toute manière, c'est le sens de l'histoire. Il y a un moment où il va falloir qu'on légifère, et puis ça avance, mine de rien, même si c'est long,
des pays qui sont venus, qui ont reculé sur la GPA, il y en a. Hein. Donc, qui ont refermé, il y en a en Asie, l'Inde a refermé aux étrangers, le Cambodge le faisait et ne le fait plus, donc bon.
Après, c'était peut-être pas encadré de la même façon non plus.
Non.
Le problème, il est là, je pense que c'est... Et c'est d'ailleurs, je pense, ce qui fait peur aussi, c'est qu'on monnaie le corps.
Oui, exactement, oui.
Donc, est-ce que vous pensez qu'on a abordé toutes les questions autour de la GPA ?
Alors, on a abordé toutes les questions qui relèvent de, oui, de ce qu'on peut dire d'un avocat français. Après, c'est vrai que la GPA, c'est un truc fou, mais c'est du point de vue juridique, bon, oui, c'est intéressant, mais je trouve que quand on lit des témoignages, qu'on lit assez peu de témoignages sur... Ça reste assez inconnu, la pratique du parcours de GPA. Ça, pour ça, il faudrait que vous ayez les témoignages des gens, mais ça, n'hésitez pas, parce que je trouve que des gens qui racontent le parcours, qui racontent comment ça se passe, les Skype avec l'agence, les bons côtés, mais aussi les mauvais côtés, la peur de déplaire à l'agence et de passer après d'autres candidats, enfin des choses comme ça. Et c'est difficile.
Complètement.
C'est vraiment un parcours difficile.
Mais moi, ce que je constate aussi, c'est que malgré le fait que je demande des témoignages de papa, je n'en ai pas. Ou très peu. Je pense que se protège encore. Quoi.
Bah, il se protège encore. Et puis, peut-être un côté, on en a bavé pendant 3 ans, c'est fini, au revoir, merci, je veux vivre. Mais...
C'est ça.
Mais ouais, c'est difficile. Ouais.
C'est ça, c'est vraiment difficile. Et je pense que, par contre, effectivement, en libérant un peu la parole autour de ça, ça peut aussi inciter des couples à se lancer. Parce que, alors, c'est sûr qu'il y a une question de budget, hein. Soyons clairs, c'est pas le même budget, hein. Mais je pense que c'est aussi faisable finalement. C'est pas tant l'aventure que ça.
Alors oui, c'est possible, faisable. C'est pas tant l'aventure que ça, dans le sens c'est encadré, donc c'est pas si difficile. Mais moi, je trouve qu'il faudra un jour qu'on ose parler, parce qu'on parle de la GPA et de la PMA que comme étant, on parle que sur le côté la possibilité que ça offre. Et bien sûr, c'est une possibilité, mais il faut aussi montrer que il y a des parcours douloureux de PMA et de GPA, comme dans n'importe quelle parentalité, et c'est aussi une façon, c'est aussi une façon de vivre sa parentalité, sa vie et parfois son deuil d'enfant, exactement de la même façon. Et je trouve que, c'est sur 2 sujets différents, mais la difficulté du parcours, on ne voit la PMA et la GPA qu'à travers le prisme du miracle que ça offre pour des couples qui n'en avaient pas. Or, c'est aussi une épreuve et un parcours du combattant pour plein de gens, et je trouve que on devrait en parler aussi comme ça pour montrer la normalité de la chose.
Oui, complètement, complètement. Et puis finalement, il n'y en a pas que 2, 3, 4 des enfants qui sont issus de la GPA en France. Il y en a beaucoup plus que ça. C'est clair. C'est vrai qu'on, je pense qu'on ne mesure pas le nombre d'enfants issus de la GPA à l'étranger, mais c'est énorme.
Maintenant, ça se démocratise entre guillemets, parce qu'encore une fois, à cause du coût, ça reste hyper limité. Mais oui, c'est... Ce qui est marrant, c'est que des réunions. Je me souviens très bien l'année dernière, j'avais une réunion pro dans un milieu, dans un réseau professionnel, mais en même temps LGBT, donc beaucoup de gens LGBT. Et en fait, la discussion n'est plus. Plus de savoir si. Il y a quelques années, c'était, je sais pas, on se demandait si on était out ou pas dans son boulot, ou si on avait, je sais pas, on parlait de différentes choses. Et maintenant, mais est-ce qu'on a des enfants, ou est-ce que, ou comment on a fait les enfants, c'est hyper fréquent.
Oui, c'est hyper la discussion standard.
Ouais, c'est vraiment marrant. Même chez beaucoup d'hommes.
Oui, mais complètement. Je trouve que l'accès à la parentalité, depuis une dizaine d'années, pour nous, ça s'est simplifié.
Simplifié, ça s'est démocratisé, on a osé. Et je pense que les générations qui ont, moi j'ai 42 ans, les gens qui ont 25 ans aujourd'hui, je me demande s'ils ont même ne serait-ce qu'eu dans leur vie un moment où ils ont renoncé à la parentalité ou pas du tout. Il est possible que jamais, quoi, ils n'ont jamais renoncé, ça viendra selon une méthode. Ils se construisent avec, on devra faire tel ou tel choix. Mais s'ils ont envie des enfants, alors ils peuvent ne pas en avoir envie, mais s'ils ont envie d'avoir des enfants, ils n'ont jamais imaginé qu'il faudrait y renoncer. Et je pense qu'il y a eu une sorte de boom de prise de conscience, c'était possible. Et les gens plus âgés sont plus âgés et n'ont pas pu le faire. Les gens entre les deux le font, et puis les plus jeunes le feront plus normalement, quoi. Tant que ce soit à ce moment-là le défi. Bon, ça reste, tant que ça restera compliqué, ça reste une aventure, mais.
Oui, complètement. Mais bon, c'est vrai que maintenant,
on se pose plus partie plus du parcours de la vie, quoi.
Oui, c'est ça. On se pose plus la question de savoir si... Enfin, on ne renonce plus, on ne fait plus le deuil d'enfant, en fait. Ouais. Il y a un dernier point que j'aimerais aborder, dont on n'avait pas, évoqué. C'est la possibilité d'accéder à la parentalité par le biais de l'adoption d'un enfant qui est à l'adoption.
Tout à fait.
Est-ce qu'on peut aborder ce point-là?
Oui. Alors là, l'adoption d'un enfant... adoptable, donc un enfant étranger au couple, pas forcément étranger tout court, mais étranger au couple. Ça, c'est possible. Alors, c'était déjà possible avant la loi par une personne célibataire, puisque dans la loi, en tout cas, c'était possible. Et puis, dans les faits, c'est arrivé. Et depuis l'ouverture de la loi sur le mariage pour tous, donc la loi n'a rien changé au droit de l'adoption, mais en ouvrant le mariage, puisque un couple marié pouvait adopter, un couple hétéro-marié pouvait adopter, eh bien, un couple marié, un couple gay ou lesbien marié pouvait donc adopter depuis la loi, la loi du 17 mai 2013, peut désormais adopter un enfant à l'étranger. Donc, enfin, un enfant à l'étranger, en dehors de son
couple. En France comme à l'étranger.
Donc, oui. En France comme à l'étranger. Après, la question qui se pose, comme pour tous les couples, c'est eh bien, la longueur du parcours, la difficulté du parcours et la possibilité d'adopter. C'est-à-dire, est-ce qu'il y a des enfants adoptables ? Alors, les enfants adoptables, il y en a plein, mais pas forcément les enfants qui sont recherchés. Alors, ouais,
c'est une question d'âge aussi.
De projet. Si les couples veulent absolument un nourrisson européen qui est né en Île-de-France, c'est compliqué.
Il y en a très compliqué.
Donc, si on se dirige vers l'adoption à l'étranger, c'est tout à fait possible. Alors, il y a des pays qui ont fermé l'adoption en France depuis cette loi parce qu'ils ne veulent pas que ce soit des enfants adoptés par les couples gays. Ça, c'est une chose. Mais si on le fait, ça reste de toute façon aussi un parcours du combattant pour une raison assez tout à fait exogène pour une raison qui n'a rien à voir avec l'homosexualité, c'est qu'il y a de moins en moins d'enfants adoptables. Les pays se développent, donc déjà les enfants sont moins abandonnés, et lorsque les enfants sont abandonnés, ils sont de plus en plus adoptés en interne. Donc il y a quand même, il y en a des enfants, mais c'est pas une explosion d'enfants adoptables. Le fait que le monde se développe et que le monde progresse fait qu'il y a moins d'enfants adoptables. Voilà. Mais sinon, oui, c'est possible.
Et dans les faits, voilà, vous le constatez.
Oui, alors c'est clairement, franchement, je pense que c'est moins fréquent que la GPA. Mais
d'accord.
Ah oui, je pense que beaucoup moins. Mais oui, ça arrive.
D'accord.
Ça arrive.
Oui, c'est vrai.
On a beaucoup entendu parler des départements dans lesquels on mettait les couples gays dans la catégorie couple spécifique, couple atypique, donc enfant atypique. Malheureusement, ça arrive aussi. Et parce que malheureusement, bien sûr. Si plus de gens veulent un petit nourrisson et qu'il y a moins de gens qui veulent un enfant de 3 ans ou un enfant ou une fratrie ou un enfant qui a une difficulté de santé, eh bien du coup il y aura moins de concurrence entre les dossiers. Mais néanmoins, même un parcours classique d'adoption, c'est-à-dire long et difficile pour tout le monde, il y en a qui y arrivent jusqu'au bout, oui.
D'accord. Ouais, c'est vrai que on le sait, que c'est des parcours qui sont très difficiles, que malgré le fait d'obtenir un agrément, on n'obtient pas forcément un enfant.
Ah bah oui, parce que l'agrément, c'est vraiment, en fait, c'est bien sûr que c'est une pièce importante et que les gens sont contents de l'avoir, mais l'agrément, c'est une démarche administrative tout à fait décorrélée d'un projet, du projet lié à tel enfant, c'est vraiment le projet du couple ou de la personne, donc bon, il n'y a pas vraiment de raison de ne pas l'avoir. Mais après, une fois qu'on a l'agrément, s'ouvre la vraie aventure de rentrer en contact avec des pays, des organisations, des familles.
Oui. Et dans ce cas-là, au niveau de l'adoption, l'adoption est prononcée en plénière en général pour le couple au global, en fait.
Sachant qu'il y a vraiment plusieurs façons de faire. Il y a soit l'adoption prononcée en local et en exéquature en France, soit elle est prononcée ici. Mais oui, c'est une adoption en couple.
D'accord.
D'ailleurs, ça n'est possible que pour le couple marié. De toute façon, l'adoption en France, ça n'est possible que par un célibataire, que par une personne seule, qui peut être une personne mariée qui souhaite adopter l'enfant de son conjoint, mais c'est une adoption par une personne seule, ou par un couple marié. Mais par un couple non marié, c'est pas possible, et par deux personnes non mariées, c'est pas possible.
D'accord, ok. Ok, moi c'est très clair, je pense.
Voilà.
Je pense qu'on a abordé à peu près tous les
pas mal de choses.
Tous les types d'accès à la parentalité. Je vous remercie beaucoup, Maître Berdo. Je vais remettre en lien de cet épisode votre site internet et votre nom, parce qu'aujourd'hui, c'est clair qu'on galère, hein, soyons clairs, à avoir des renseignements qui soient valables, et des spécialistes de l'homoparentalité, il n'y en a pas beaucoup. Donc je pense que ça pourrait intéresser beaucoup de nos auditeurs.
Eh bien, écoutez, avec plaisir. Et merci à vous.
Merci à vous, à bientôt.
Merci, au revoir.
Au revoir. Et voilà, c'est la fin de cet épisode. J'espère qu'il vous aura plu. Et si c'est le cas, n'hésitez pas à soutenir le podcast en lui mettant 5 étoiles sur votre plateforme d'écoute, et plus particulièrement sur Apple Podcast, afin de lui donner plus de visibilité. N'hésitez pas à le partager et à le faire découvrir. Plus nous gagnerons en visibilité, plus nous aiderons d'autres familles à se construire, et ainsi nous normaliserons les nouveaux schémas familiaux. Peut-être aurons-nous aussi la chance de pouvoir rassurer et montrer la voie aux nouvelles générations. Vous retrouverez en note de cet épisode le lien vers le site du cabinet de Maître Berdo. Je vous souhaite une très belle fin de journée et vous dis à vendredi prochain pour écouter le dernier épisode de la saison numéro 1 du podcast Les enfants vont bien. I'll be right behind you, Josephine. I won't leave you waiting in this dream. While you watch the people speaking words you can't quite comprehend. You ask me if I'd pinch you, but my fingers wouldn't bend. I'll be right behind you, Josephine. Like I was when we were 17. I guess it's only been a year, but still it feels like 34. I don't feel like I am living in the same skin anymore. Now hold my hand, I'll hold my breath. There's nothing in this world we really own. And Jesus Christ, if you tore my heart out, the only thing I'd feel is less alone. Less alone. Even when my soul's an amputee and my bleeding heart is sinking in the lake inside my chest, so I grab what I can cling to and I leave behind the rest. I'll hold my hand, I'll hold my breath. There's nothing in this world we really own. Jesus Christ, if you tore my heart out, the only thing I'd feel was less alone. Now hold my hand and take my breath and leave behind the things you'll never own. And Jesus Christ, please tear my heart out.
Acast powers the world's best podcasts. Here's a show that we recommend.
Late bloomers tend to have more curiosity. They tend to have more resilience.
There's stories and mythology that this country has woven around black men.
This is the cavalry, right? These are the leaders, the hometown heroes and local leaders. And we are.
It's a survival mechanism to just be like worried of police.
What if everything we've been taught is just all wrong?
What's worth more than this fear right now?
And that rising after failure is part of the glory of being a human being.
Acast helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. acast.com.